Radio Okapi.
Malgré l'annonce du prochain retrait des troupes ougandaises de la RDC, les opérations militaires conjointes FRDC et l'armée ougandaise UPDF se poursuivent normalement dans la région de Bogatiabi, au sud-est du territoire d'Iromo. En 3 mois, 14 localités jadis bastions des ADF sont déjà sous le contrôle des deux forces. Une dizaine de morts et plusieurs blessés graves, c'est le bilan d'un accident de circulation qui a eu lieu hier mardi au quartier Panzi en commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu. La défense technique sur le système de freinage du véhicule serait la cause de cet accident. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal le sénateur Jérôme Bikenge Musimbi. Ce dernier, qui s'est dit fortement touché par des conditions socio-économiques de la population du Maniema en général et celle du territoire de Pang en particulier, est aussi surpris de voir ce territoire qui fournit tous les minerais au pays rester pauvre et sans route. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, les opérations militaires conjointes entre les FARDC et l'armée ougandaise UPDF se poursuivent normalement dans la région de Bogatiabi, au sud-est du territoire d'Irumu, malgré la déclaration du général Muhoozi Kainerugaba, commandant de la force terrestre de l'armée ougandaise, annonçant le retrait de ses troupes du Congo dans les 2 prochaines semaines. Sur le terrain, environ 14 localités jadis bastions des ADF sont déjà sous le contrôle des deux forces en l'espace de 3 mois d'opérations conjointes, indique les FARDC. Entre-temps, le porte-parole de l'armée ougandaise se réserve de confirmer la déclaration du général Muhoozi. Marcel Kizabiamungu.
C'est depuis le début du mois de mars que les FRDC et les UPDF ont lancé les opérations contre les positions des rebelles des ADF dans la région de Boga et Tchabi, au sud-est du territoire d'Iromo. Selon des sources militaires, 3 mois après, les deux armées ont réussi à récupérer plusieurs localités jadis sous contrôle des ADF. C'est notamment Zunguluka, Masiza, Mbipa, Machidi 1 et 2, Baitata, Belou, Bwakadi, Katanga et Nyakisozi. Par ailleurs, les deux forces ont mené d'autres opérations des traques de l'ennemi à Batonga, Tondoli, Bulango et Mitembo. Plusieurs sources militaires du côté des FRDC et des UPDF à Boga affirment que les opérations conjointes continuent normalement dans la profondeur de la forêt de Zunguluka. En rapport avec le soi-disant retrait des troupes ougandaises de l'est de la RDC d'ici à 2 semaines, les porte-parole de l'armée ougandaise contactés ce mercredi depuis Kampala, le général Félix Kalaigye dit, je cite, « Je ne suis pas à mesure de confirmer à ce stade de cette information. » Fin de citation. Dans la capitale ougandaise, à Kampala, plusieurs sources proches des officiels affirment que les parlements ougandais mettraient la pression sur le gouvernement pour retirer ses troupes de la RDC à cause du coût de cette opération militaire. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
En effet, il est prématuré de dire que les opérations militaires menées conjointement par l'armée ougandaise et les forces armées de la RDC contre les ADF prendront fin dans 2 semaines. Réaction de Patrick Muyaya, ministre des médias et porte-parole du gouvernement à l'un des tweets du chef de l'armée ougandaise. Selon Patrick Muyaya, cette mission prendra fin sur décision des 2 chefs d'État après l'évaluation de la situation militaire sur le terrain. Il a déclaré au cours de la conférence de presse tenue ce mardi 17 mai ici à Kinshasa, à côté du gouverneur militaire de l'Ituri. Patrick Muyaya est au micro de Paul Matendo.
Il a fait 2 tweets. Dans un premier tweet, il a dit effectivement qu'il y avait les opérations suivant le calendrier et l'accord qui a été convenu devrait durer 6 mois. Mais lui-même est revenu pour dire, voilà, que les opérations se termineront lorsque les 2 chefs d'État décideront. Parce qu'en réalité, il y a eu des raisons dont on a déjà longuement parlé ici qui ont motivé les opérations militaires entre l'armée nationale, la nôtre, et l'armée ougandaise, dictée par une menace commune, celle des ADF. Au bout des 6 mois, il y a eu certes des avancées, mais avant qu'on ait décidé de mettre fin à ce qui avait été convenu, je crois qu'il y a des réunions des états-majors qui permettent d'évaluer la situation et les degrés d'évolution par rapport aux objectifs initiaux. Et en ce moment-là, on va estimer, les militaires vont dire, là, nous pouvons nous arrêter parce qu'il y a tant du côté ougandais que du côté congolais des points focaux. Pour l'instant, il est prématuré de dire si les choses se feront de cette manière-là.
Et puis, ça fait une année que je suis en Ituri et je n'ai pas encore vu la MONUSCO donner des armes, que ce soit aux ADEF ou à la CODECO et même à d'autres groupes armés. Ces propos sont du gouverneur de l'Ituri. Le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama s'est ainsi exprimé ce mardi 17 mai ici à Kinshasa. C'était lors de cette conférence de presse conjointement animée avec le ministre Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama l'a dit au micro de Paul Matendo.
À Mambasa, moi je crois que c'est un problème de manipulation. Nous travaillons avec la MONUSCO. Évidemment, il y a des gens, certaines personnes qui ont des allégations, mais il faudrait bien les prouver. Alors, quand vous parlez à la paisible population, vous dites que voilà, nos partenaires qui sont la MONUSCO aident, n'est-ce pas, les groupes armés, et cette paisible population, cette population qui est vraiment dans des milieux reculés, mais elle peut y croire et avoir ce genre de réaction. Mais ça fait une année que moi j'étais à... Je suis en Ituri, je n'ai pas encore vu la MONUSCO donner des armes, que ce soit aux ADEF, que ce soit à la CODECO, et même à d'autres groupes armés. Et donc, peut-être cela arrive parce que ça fait aussi plus de 20 ans qu'ils sont là. La population veut voir, je crois que c'est un problème de résultat, la population veut voir le résultat. Mais ce résultat-là, c'est un résultat d'une guerre qui a commencé depuis 20 ans. Mais c'est un résultat qu'on veut nous imposer pour cet état de siège qui a commencé il y a une année.
Et puis au Nord Kivu, une réunion de planification en interne pour la poursuite des consultations de Nairobi entre le gouvernement et les groupes armés locaux est prévue très prochainement à Goma. Les sources de la présidence confirment la tenue de ce rendez-vous avec la présence à Goma des quelques acteurs impliqués dans ce processus. Gabriel Wamenya.
Les quelques acteurs clés dans ce processus sont arrivés en début d'après-midi ce mardi à Goma. Il s'agit notamment de l'ambassadeur du Kenya à RDC, Georges Massefu, du professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État Félix Tshisekedi, ainsi que les délégués de la communauté internationale représentés par la MONUSCO, Jacob Mugeni. Selon les sources de la présidence, cette rencontre aura dans un premier temps un caractère interne sans la participation des groupes armés. L'objectif consistera selon les mêmes sources, à dégager et à déterminer les points essentiels, sinon un canevas de rencontres avec les groupes armés locaux pour les prochains rounds de ces consultations. Les mêmes sources précisent que la facilitation logistique pour la tenue de ces rendez-vous préparatoires sera assurée par la communauté internationale à travers la MONUSCO. Rappelons qu'au cours d'une rencontre mixte gouvernement et la communauté internationale tenue ce lundi au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa, les ambassadeurs de la Chine, de la Grande-Bretagne et celui de l'Union européenne auprès de la RDC ont loué les efforts du gouvernement congolais dans le cadre de la stabilisation dans l'est de la RDC. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Et puis le forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais entre en sa deuxième journée. La plupart des participants sont optimistes quant à l'issue heureuse de ces assises. Cependant, ils tirent la sonnette d'alarme sur le climat qui doit y régner pour éviter que la réconciliation tant souhaitée par tous ne soit pas de façade. On écoute à ce sujet le professeur Ruth Mulongo, un proche de Moïse Katumbi, au micro de Jean Gandou.
Ce qui me plaît beaucoup, c'est surtout le fait que on n'a pas appelé les gens pour les garrotter. C'est ouvert. Surtout la liberté qu'on nous a laissée de nous parler. Même s'il faut nous marcher dessus, eh ben, qu'on se marche dessus, mais pas méchamment. Nous dire de vérité. Je crois qu'à partir de maintenant, on va éventrer les boas. Mais le plus important, c'est que vous sentez qu'au-delà de tout ça, tout le monde semble avoir été fatigué de la division de Katangé et que tout le monde rêve qu'au bout de ceci, qu'on s'accepte en tant que frères et sœurs, mais dans nos différences. C'est ça qui apparaît, espérons qu'il en sera ainsi. Si les gens confondent un lieu de discussion pour des solutions à un lieu folklorique, si la sincérité manque, si nous restons dans l'hypocrisie qui était devenue presque légendaire, ça ce sont des écueils qui peuvent faire en sorte qu'on termine, on se serre la main, mais au-dedans de nous, on reste comme ça. Vous connaissez mon problème à moi. Tout le monde sait ce que j'ai connu. Mais si on n'en parle pas avec mes frères et qu'eux aussi acceptent que c'était pas bien, ça risque d'être des façades.
Au Sud Kivu, un accident de circulation fait une dizaine de morts et plusieurs blessés graves. Les faits ont eu lieu hier mardi après-midi au quartier Panzi en commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu. Un camion de marchandises en provenance de Kamanyola a percuté les marchandes au niveau du petit marché de Kamagema sur la route nationale numéro 5. Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
L'accident s'est produit en début d'après-midi de mardi au niveau du petit marché de Kamagema, non loin de l'hôpital de Panzi. Un camion chargé de marchandises en provenance de Kamaniola vers Bukavu a perdu le contrôle et ramassé plusieurs personnes sur son passage. Sur place, le chef de quartier Panzi que nous avons contacté affirme avoir enregistré 4 morts et un nombre élevé de blessés. Tard dans la soirée, le maire de Bukavu évoque le bilan de 8 morts et une dizaine de blessés graves. Cet accident est intervenu en cet endroit à forte concentration avec d'intenses activités commerciales à même le sol. Des dizaines de mototaxis et autres transports en commun s'entassent juste devant le marché pirate de Kamagema de Panzi. À l'hôtel de ville, le maire de Bukavu dit tenir une réunion de conseil de sécurité ce mercredi afin de prendre d'éventuelles décisions. Emmanuel Lamijoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Et on revient ici à Kinshasa, début ce mercredi du recouvrement forcé de la vignette, exercice 2020 pour les engins motorisés. Les agents de la police et de la DGRK, la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, sont sur le terrain. Cela occasionne des bouchons. Les propriétaires de plusieurs véhicules non en règle ont préféré les garder à la maison. Autre conséquence, plusieurs personnes traînent aux arrêts de bus en attente d'un moyen de transport. Notez que cette opération initialement annoncée en décembre 2020 avait été reportée pour permettre à tous les assujettis de se mettre en ordre. Examen d'État 2022. Les épreuves hors session débutent le 23 mai prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À la province éducationnelle de l'EPST Équateur 1, 11 068 candidats sont attendus à ces épreuves certificatives. Chacun doit payer 82 000 francs congolais pour les épreuves hors session, conformément à l'arrêté qui a été pris par le gouverneur de province. Cependant, certains parents ont dénoncé la majoration de ces frais par certains chefs d'établissement. Voilà pourquoi le directeur provincial de l'EPST Équateur 1 a réagi énergiquement contre ce qu'il qualifie d'allégation. Hervé Mungeta exige aux parents de fournir des preuves et promet des sanctions à l'encontre de toute autorité scolaire coupable de cette pratique comme antivaleur. Il a dit au micro de Paul-Richard Malingela.
L'arrêté du gouverneur, non, les frais sont fixés à 82 500 pour les épreuves hors session et 75 000 pour la session ordinaire. Et jusqu'à la preuve du contraire, nous attendons qu'on attrape ne fût-ce qu'un seul préfet qui a majoré les frais. Qu'est-ce que nous avions fait? Et nous avions demandé aux parents d'aller payer les frais à l'inspection pour les parents qui sont ici. Et au niveau de l'intérieur ou même au niveau de la ville, celui qui va tomber sur un préfet qui va demander plus, qu'ils prennent le courage de venir dénoncer les noms de l'école et les noms de ces préfets. Mais très souvent, il y a un parent qui vous appelle au téléphone, non, chez nous, on a majoré au lieu de 75 000, ici c'est 120 000. Mais papa, quel est le nom de l'école? Quel est le nom de l'enfant? Non, je ne peux pas citer le nom de mon enfant, il risque d'avoir des problèmes. C'est comme ça, nous appelons ça des fois des allégations. Nous avons mis les services de sécurité à contribution pour que nous puissions décourager tout le monde qui tomberait dans ces pièges-là que nous avions tendu. Néanmoins, nous avions demandé aux parents de venir payer l'argent à l'inspection quand ils trouvent qu'à l'école, on lui demande autre chose.
Et puis au Kwilu, le mouvement citoyen dénommé Vigilance Citoyenne Vichy en sigle, section du Kwilu, dénonce la non-réalisation par l'Office des Voiries et Drainages, OVD, des travaux d'asphaltage de 17 km de route dans la ville de Bandundu, chef de la province du Kwilu. Son coordonnateur provincial fait savoir que cette société avait reçu des financements de la part du FONER, Fonds d'entretien routier, pour ses travaux, mais jusque-là, rien n'est fait. Exxon Mikwa demande à l'OVD de justifier la destination de ces fonds, allégation que rejette en bloc le directeur provincial de l'OVD Kwilu, Bruno Timba. Irène Bouma.
Dans un entretien avec Radio Okapi, Exxon Mikwa, coordonnateur provincial du mouvement citoyen dénommé Vigilance Citoyenne, a fait savoir que la ville de Bandundu a été ciblée parmi les villes bénéficiaires d'un financement de la part du FONER pour la construction de 17 km de routes. Mais jusque-là, l'OVD qui avait reçu ces fonds n'a rien réalisé à travers la ville, sauf quelques petits travaux.
Grand est notre étonnement aujourd'hui de constater jusque-là, l'OVD n'a même pas atteint 1 km de route. Petit travail qu'on faisait du tronçon relié d'une bande EIC de 50 mètres. Le travail est bloqué. Silence radio de la part de l'OVD. Nous nous demandons pourquoi ce silence et où est parti les 17 km de route que le Foner avait financé.
Contacté à ce sujet, le directeur provincial de l'OVD Kwilu, Bruno Simba, déclare que son entreprise n'a jamais reçu un quelconque financement pour l'asphaltage des routes dans la ville de Bandundu.
On n'a jamais reçu, que ce soit du gouvernement national, on n'a jamais reçu les fonds pour asphalter les avenues ici à Bandundu. On n'a jamais reçu le financement des grands projets comme ça. Jamais. Même un kilomètre, non.
Bruno Simba appelle plutôt la vigilance citoyenne à l'approcher pour avoir des informations fiables. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Libye, après la tentative du Premier ministre Fatih Bachaga d'installer son gouvernement dans la capitale mardi, Abdellahim Djeiba, Premier ministre du gouvernement de Tripoli, s'est exprimé à la télévision. Pour lui, organiser des élections est la seule solution pour apaiser les tensions. Et puis, au 84e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce mercredi 18 mai, l'opération d'évacuation des derniers soldats ukrainiens retranchés dans la ville stratégique de Mariupol se poursuivait selon le président Volodymyr Zelensky, qui n'a pas précisé leur nombre.
L'invité.
Le sénateur Jérôme Bikenge Musumbi s'est dit fortement touché par les conditions socio-économiques de la population du Maniema en général et celles du territoire de Pangue en particulier. Représentant le président du Sénat à la cérémonie du sacre du nouvel évêque du diocèse de l'église anglicane de Kalima le week-end dernier, ce sénateur s'est dit surpris de voir le territoire qui fournit tous ses minéraux au pays rester pauvre et sans route. Maître Jérôme Bikenge Musumbi pense que quelque part il y a une responsabilité de l'État et que les responsables qui gèrent les services attitrés doivent répondre de leurs actes. Il est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient avec Florence Kizalunga. Suivez.
Monsieur le sénateur Jérôme Bikenge Musumbi, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Fils du terroir, vous avez quitté Kinshasa pour représenter le président du Sénat à la cérémonie du sacre du nouvel évêque du diocèse de l'église anglicane de Kalima. C'est avec quelle motivation?
Bien, j'ai quitté Kinshasa pour venir à Kalima, représenter le président du Sénat, l'honorable Modeste Batilukwebo, dans le but de se joindre à la joie qui était celle des fidèles de l'église anglicane, où Monseigneur Christophe Kangamina Sadiki a été désigné comme l'évêque de la place. Le but était de voir dans quelle mesure le président du Sénat peut se faire une idée de la manière dont l'évêque va pouvoir s'occuper à la fois de sa mission d'évangélisation, de l'éducation et de sa mission de réalisation des œuvres sociales. Il est vrai que le président du Sénat n'est pas un ministre de Dieu, c'est un politique. Mais entre la politique et la religion, il n'y a qu'un pas. Parce que nous participons, nous, en tant que politiques, à des types d'activités qui sont en connexion directe avec la mission de l'Église, à savoir l'enseignement et la réalisation des œuvres sociales.
Vous êtes au courant de la situation socio-économique de la population de Kalima. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouvel évêque?
Bien, il n'est pas venu résoudre tous les problèmes sociaux. Il est un évêque et donc c'est pas un politique. Et ce qui est vrai, la situation sociale dans les territoires des Pangue, de manière générale, est catastrophique. Et de manière particulière au niveau des Kalima, n'en parlons pas parce que on a érigé l'activité minière comme l'activité principale, tout en oubliant complètement l'agriculture qui se trouve être le centre et même le moteur du développement. Je pense que à son niveau, avec son programme d'action et les idées qu'il a du développement, il pourra faire quelque chose. Et tout ce qu'il a en tête en termes de programme d'action, s'il est réalisé, je crois qu'il va participer à des solutions sur le plan social permettant à notre population de se prendre en charge.
De Kindu à Kalima, vous avez emprunté la route. Vous avez vu l'état de cette route. En tant que sénateur, ça vous donne quelle idée?
L'état de la route est Kindu Kalima Ipité. Parce que l'office des routes qui a travaillé sur la route s'est limité en cours de route, c'est-à-dire à mi-chemin. Ça, c'est le financement, bien entendu, du gouvernement provincial. Notre souhait est celui de voir l'office des routes travailler cette partie de la route de la RN31 jusqu'à Kalima et pourquoi pas dépasser. Et il n'y a pas que Kalima. Et cette situation que nous venons de vivre, que nous venons de constater de visu, pourrait être multipliée par 10 à travers la province. C'est là où nous estimons que le gouvernement central devait prendre le taureau par les cornes pour réhabiliter tous ces axes routiers, parce qu'en fait, le développement des 145 territoires de notre pays passe par là.
Alors, vu ce tableau sombre, que peut espérer la population de votre passage dans cette partie de la province?
En tant que sénateur, nous avons toujours plaidé la cause de la province de manière générale, et celle du territoire de Pang en particulier. J'ai eu à m'entretenir avant de venir ici, d'abord avec les responsables de l'office des routes au niveau de Kindu, pour que l'on puisse me faire la situation exacte de la route en question. Mais au-delà de cet aspect des choses au niveau provincial, l'obligation nous incombe de prendre contact avec le ministre des Travaux publics au niveau national pour voir qu'est-ce qui était prévu sur toutes les routes de la province de Maniema. C'est cela notre démarche, parce que le minerai de coltan, de la castérite et de wolframite, ces minerais-là qui sont prisés à travers le monde, viennent d'ici. Tout ce qu'il y a comme statistique au niveau de l'Europe de ces trois minerais, ça vient de Kalima. Vous comprenez? Et donc, c'est une ville stratégique. C'est à la fois une ville minière, mais en même temps une ville qui a un rayonnement sur le plan de l'exploitation et de l'exportation minière, mais qui, in fine, reste une ville qui est pauvre.
Maître Jérôme Bikenge Moussimbi, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie, Madame la journaliste.
Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre particulière attention.